Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, je vous ai raconté deux histoires de fantômes tirées du livre publié par la médium Patricia Daré chez Michel Lafon, Il y a quelqu'un dans la maison. Eh bien aujourd'hui, je vais vous en raconter deux autres histoires tirées du même livre, qui entre-temps a fait d'ailleurs un carton en librairie. Alors à l'époque, j'avais été assez honnête avec vous, hein, je le serai encore aujourd'hui. Je ne crois pas aux fantômes, je suis assez rationnel, je ne crois pas à tout ça, mais les deux premières histoires ont fait un carton en podcast, et je me suis dit que soit vous y croyez, je le respecte bien sûr, soit vous êtes comme moi, vous savez reconnaître les bonnes histoires, et ce sont, quoi qu'on en dise, de bonnes histoires. Bonjour Patricia Daré.
Bonjour Christophe.
Et merci de faire confiance aux non-croyants que je suis. Les journalistes d'ailleurs qui vous invitent à la radio, à la télévision pour la promotion de vos livres, en général ils y croient.
Pas tous, mais je vais vous dire pour être honnête que j'aime beaucoup les gens qui n'y croient pas. Parce qu'au moins il y a une espèce de rationalité et d'objectivité qui me rassure et qui est saine.
Parce
que je préfère.
Il arrive que des gens les prennent au premier degré et s'emballent avec vous.
Oui. Ou s'emballent tout seul d'ailleurs, pas forcément avec moi.
À l'au-delà de ce à quoi vous croyez vous-même.
Oui, parce que j'aime beaucoup, bien sûr, parler de cela, mais je n'aime pas les gens perchés, comme on dit entre guillemets. Vous savez, les gens perchés qui partent très vite, très haut. Oui. J'aime bien avoir les pieds sur terre, c'est quand même essentiel.
Juste avant de raconter ces deux histoires, vous-même, vous étiez croyante avant de découvrir ce don, parce qu'on se connaît tous les deux depuis... très longtemps, plus de 30 ans. Et je n'ai pas souvenir qu'il y a 30 ans, quand vous étiez animatrice à France Bleu Berry, vous aviez ce don-là. Vous n'en parliez pas, je ne me souviens pas que vous évoquiez cela.
Je ne l'avais pas, il est arrivé en 1995, après la naissance de mon fils. Donc non seulement il est arrivé comme un choc terrible dans ma vie, mais je n'y croyais pas du tout. Ça me faisait beaucoup rire.
Et le terrain n'était pas favorable.
Pas du tout, pas du tout. J'étais comme vous.
Donc voici ces deux histoires, qui sont donc tirées du livre « Il y a quelqu'un dans la maison » chez Michel Lafon de Patricia Daré. Je les ai écrites avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Patricia Daré n'a pas de caravane sur la place de son village du Berry. Elle n'a pas non plus de cabinet dans lequel elle reçoit, où elle donne des consultations. Patricia ne fait pas commerce du don qu'elle prétend avoir reçu. Ça n'est pas Madame Irma. Quand on l'appelle au secours, elle répond. C'est tout. Quelqu'un qui s'est débrouillé pour avoir son numéro, ou alors c'est une lettre. Et ce jour-là de mars 2015, c'est un mail qu'elle reçoit. Un mail d'un certain Nicolas, qui habite à Bourges, avec sa femme et ses trois enfants. Il se passe des choses bizarres chez lui. Il ne lui en dit pas plus, il voudrait juste qu'elle le rappelle. Nicolas ? Bonjour, c'est Patricia Daré. Vous vous souvenez, vous m'avez envoyé un mail.
Ah oui, bonjour Patricia, merci de me rappeler.
Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, c'est une histoire complètement délirante, ça fait un mois qu'il nous arrive des trucs absolument dingues. En fait, je préférerais vous en parler de vive voix. Vous accepteriez de passer nous voir ?
Bourges, ça n'est pas loin de chez elle. Je vous rappelle que Patricia est berrichonne. Alors elle y va. Et elle se retrouve face à une grande maison. C'est une jolie femme, environ 40 ans, qui lui ouvre. Anne-Sophie est la femme de Nicolas. Elle entre et tout de suite elle sent comme un pincement. Un pincement au niveau de la poitrine. Une énergie lourde et suffocante me mettait mal à l'aise. J'allais devoir me concentrer pour écouter et comprendre ce qui se passait. Il était certain que nous n'étions pas seuls.
Je vous en prie, asseyez-vous.
Bon, voilà comment ça a commencé. C'était il y a un peu plus d'un mois. Lucas, notre plus jeune fils, il a 6 ans. Un matin, il s'est levé. Il avait des traces de griffures dans le dos, ça partait du cou et ça allait jusqu'en bas des reins. Mais pas le genre de griffure qu'on peut se faire tout seul. On avait l'impression que son dos avait été labouré, comme par les griffes d'un chat. Au début, on a cru que c'était ses frères qui avaient fait ça, mais ils nous ont promis que c'était pas eux. Et puis avec le recul, je les vois très mal faire ça à leur petit frère. On appelle le petit Lucas, on lui soulève le t-shirt, les cicatrices sont encore visibles, boursouflées. Il est le seul à avoir ses griffures? Des griffures, oui, oui. Mais Mathias, notre second, s'est retrouvé avec des bleus partout. Et le petit dernier, Enzo, bah lui, il a pris une gifle.
Une gifle?
Bah oui, une baffe qui venait de nulle part. Et là, j'avoue que ça a sérieusement commencé à nous faire camberger. Entre nous, ça n'est pas très facile à raconter pour Nicolas et Anne-Sophie. La peur de passer pour des fous, des zinzins, des prêtes-zingues, des qui travaillent du ciboulot. Mais bon, maintenant ils sont lancés, Patricia les écoute, elle a l'air de ne pas les juger, alors ils racontent la suite. Parce qu'il y a une suite. Nicolas d'abord, le père.
Mais moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de complètement fou. Il y a 2 semaines, j'étais en train de regonfler mon vélo dans le garage. Et là, j'ai senti des mains se poser sur mes épaules. Elles m'ont fait valdinguer en avant, avec une force incroyable. Il n'y avait personne.
Et dans la foulée, c'est Anne-Sophie qui raconte son histoire.
Mais moi, c'était il y a 1 semaine environ. Je rangeais le placard de ma chambre. Eh ben, on m'a tiré violemment les cheveux, sauf qu'une fois de plus, il n'y avait personne. Je me suis demandé si je perdais pas les pédales.
Patricia demande alors à visiter la maison.
Donc, ben là, c'est notre chambre. Et puis là, c'est la chambre des enfants.
Patricia fait le tour de toutes les pièces, une par une. Elle ressent un malaise, quelque chose d'impalpable, de malsain. Voilà, de malsain. En revanche, elle n'a aucune vision, aucune voix ne lui parle, rien de rien. Et comme sa spécialité, ce sont les fantômes, elle est désolée.
Vous savez, moi, ce que je sais faire, c'est parler avec les voix qui habitent les maisons. Là, oui, je sens quelque chose d'étrange, de malsain même, pour vous dire, mais je n'entends aucune voix. Je crains de ne pas pouvoir vous aider beaucoup.
Elle est sur le point de s'en aller, de rentrer chez elle.
Vous pourriez juste m'indiquer où sont les toilettes?
Elle entre dans les pipi-rooms, elle ferme la porte, et là, elle reçoit un énorme coup dans le dos. Elle a le souffle coupé. Et elle sent comme une force invisible qui la traverse de part en part. Alors elle ressort. Elle ne dit pas un mot sur ce qui vient de lui arriver pour ne pas inquiéter Nicolas et Anne-Sophie. Et elle leur dit juste
« Bien, je crois qu'il est temps pour moi de réfléchir à votre problème. Je vais vous rappeler, hein, très vite. Et tenez-moi au courant s'il se reproduit des phénomènes bizarres, d'accord ?»
Quand elle quitte cette famille pour rentrer chez elle, à l'autre bout du Berry, Patricia est là dans sa voiture, elle gamberge et elle se dit. Ces événements sont survenus les uns derrière les autres, en très peu de temps. Quelque chose s'est immiscé dans cette famille, ou plutôt quelqu'un. Il y a un fantôme, il ne lui a pas parlé, mais il y a un fantôme dans cette maison. Pourquoi se manifeste-t-il maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Qu'est-ce qui a changé récemment? Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel d'Anne-Sophie.
Patricia, c'était hier soir vers 19h. Nicolas était en train de regarder la télé avec les garçons. Eh ben, vous n'allez pas le croire, le canapé sur lequel ils étaient tous assis s'est soulevé. Je suis arrivé dans le salon au moment où il retombait par terre. Je l'ai vu. J'ai eu la peur de ma vie, Patricia.
Allons bon. Voilà maintenant que le canapé se met en lévitation. Sa Patricia, ça lui parle. Elle en a entendu mille des histoires de lévitation. Au point d'ailleurs qu'elle s'est fait sa théorie, elle pense que la lévitation résulte d'une émission importante de matière psychique. Elle pense qu'un fantôme peut faire tout ça, peut soulever un canapé. Et donc le samedi suivant, elle y retourne. Elle retourne chez Nicolas et Anne-Sophie dans leur belle maison bourgeoise de Bourges. Et elle les sent beaucoup plus anxieux que la fois précédente.
« J'ai l'impression qu'il y a un intrus dans la maison. On n'est pas seul. Je fais tout pour pas inquiéter les enfants, mais ça devient de plus en plus compliqué, Patricia. Aidez-nous. Il faut nous aider. »
Elle refait donc le tour du propriétaire. Et à nouveau, elle a cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie la première fois. L'atmosphère est pesante, mais elle n'a toujours pas de vision. En revanche, il y a un truc qui l'a fait tiquer. Un truc auquel elle n'avait pas accordé d'importance la première fois. Les meubles. Les meubles sont tous anciens. Ça ne vient pas de chez Ikea.
Intéressant, votre mobilier. C'est un héritage ? Ah non. Je chine beaucoup, j'adore aller chez les brocanteurs, chez les antiquaires. Hein ? Et vous avez acheté des choses ces derniers mois ?
Oui. Un pichet en terre cuite.
C'est tout ? Ah, attendez, j'ai acheté un vieux tabernacle du 18e siècle, il y a environ un mois et demi, mais il est au grenier. Vous voulez le voir ?
Un tabernacle ? Et un peu qu'elle veut le voir. Un tabernacle, c'est un petit coffre qu'on trouve dans les églises, juste derrière l'autel. C'est là-dedans que le curé enferme le pain et le vin sacré, les ciboires, les hosties. Vous voyez ? Les voilà donc qui montent au grenier. Et il est là, posé. Patricia s'accroupit, elle le caresse et elle ressent un froid glacial. D'un coup, elle est frigorifiée. Elle a la chair de poule.
Vous pouvez me laisser seul ? Un instant.
Une fois Nicolas et Anne-Sophie sortis, elle ouvre la petite porte délicatement. Et d'un coup, elle voit un éclair blanc et elle entend une voix d'homme essoufflé qui se met à sangloter.
« Pitié ! Pitié !»
Elle retire sa main, elle recule et elle est prise d'une angoisse terrible, la peur de mourir. C'est lui, c'est ce tabernacle, innocemment rapporté d'une brocante, qui est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle en est certaine. Les griffures, les coups, le canapé qui se soulève, c'est lui.
Je crois avoir trouvé la source de vos soucis. Vous voulez dire le tabernacle ? Mais comment est-ce possible ? Ça, je ne peux pas encore vous le dire. On va s'en débarrasser tout de suite.
Est-ce que ça vous embête si je l'embarque avec moi ? Et voilà donc Patricia qui place le tabernacle dans le coffre de sa voiture.
Je vous tiens au courant !
Et qui l'emporte chez elle, à Villedieu-sur-Indre, près de Châteauroux, le tabernacle et son fantôme. Bon, elle ne le met pas dans sa chambre à coucher, hein. Elle le met dans la cabane du jardin et elle le laisse reposer là pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, elle retourne le voir. Elle s'accroupit devant l'objet et elle passe sa main dessus délicatement. Elle se concentre. Et là, elle dit qu'elle a une vision. Elle voit des émeutes, elle voit une église, elle voit des types armés qui saccagent tout l'intérieur de l'église et qui hurlent. Et puis elle voit un homme qui prend le tabernacle et là, ses visions s'arrêtent d'un coup. Net. Les jours qui suivent, elle y retourne. Et à chaque fois, elle passe sa main dessus et elle a les mêmes visions. Des hommes armés, une église, des hurlements, et à nouveau, ses visions s'arrêtent nettes au moment où un homme s'empare du tabernacle. « Une nuit, elle est réveillée par une voix d'homme qui sanglote.
Pitié, Seigneur, prenez pitié.
Et à nouveau, elle est prise d'une terrible angoisse. Elle a la peur de mourir. Elle enfile un pull, elle se précipite dans le jardin, elle s'assoit devant le tabernacle, elle ouvre la petite porte et elle dit qu'elle a une nouvelle vision. L'intérieur d'une église. Un prêtre agenouillé devant l'autel. Il a des cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules. Il est de dos, il est en train de prier. Alors dans son jardin, devant ce tabernacle, Patricia se met à réciter le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui...
Et là, elle dit qu'elle voit le prêtre qui se retourne et qui la fixe. Il est très jeune. Les jours qui suivent, ses visions se font de plus en plus précises. Elle voit toujours des hommes armés, elle voit des faux, des maillets, des fusils qui saccagent tout et qui hurlent en se dirigeant vers la sacristie. Et elle voit le jeune prêtre qui prend un coup de bâton sur le crâne et qui s'écroule. Elle commence à décoder la scène. Tout ça commence à faire sens. Voilà ce qu'elle voit. C'est une scène de la Révolution française. Ce sont des révolutionnaires qui exécutent un prêtre. Je vis son esprit passer dans le tabernacle. L'homme de Dieu, peu conscient de la mort et trop enfermé dans sa peur et sa résistance aux révolutionnaires, s'était réfugié dans l'objet qui allait devenir son église. J'ai compris que chez Anne-Sophie et Nicolas, le prêtre n'avait senti aucune vibration familière et s'était senti en danger et qu'il avait décidé de frapper en premier. Et maintenant, la mission de Patricia, c'est donc de libérer ce prêtre de son tabernacle, de l'aider à rejoindre l'au-delà. Alors le soir même, elle retourne auprès du tabernacle, elle emporte un livre de prière, elle ouvre la porte. Et elle récite une prière. Je sentis un tumulte dans l'invisible, comme si les dernières résistances étaient en train de lâcher. Pourtant, la ferveur religieuse du prêtre s'opposait encore à ce qu'il pensait peut-être être un piège. Patricia continue de réciter ses prières. Et peu à peu, elle dit qu'elle ressent comme un grand soulagement. Elle le sait, l'âme du prêtre s'éloigne vers l'au-delà. Elle a gagné. Elle a rempli sa mission. Et là, c'est une amie de Patricia, Annie, qui fait le contact avec le fantôme.
Patricia, je te jure, tu devrais voir Adèle. Elle vit pas loin, elle vit à Montluçon. C'est une dame très âgée. Mais il se passe des trucs bizarres chez elle. Vraiment bizarres. Va la voir. Oh, écoute, t'es gentil. Tu me dis qu'elle est très âgée. T'es sûr que c'est pas un délire sénile? Je t'assure, elle est loin d'être folle. Allez, fais un petit effort, Patricia. Laisse-moi te la présenter. Tu verras, tu me remercieras.
Et donc, par amitié pour sa copine Annie, Patricia accepte de faire ce petit effort. Et elle va chez cette vieille bonne femme à Montluçon. Elles y vont ensemble, en vérité. Et elles arrivent devant une immense maison, genre manoir victorien sur 3 étages. Vous voudriez faire un film sur une maison hantée, vous la choisiriez ? Tout de suite. Et les voilà qui frappent à la porte. Une porte en bois massif qui s'ouvre lentement. Et là, apparaît Adèle. L'air de sortir tout droit d'un roman d'Agatha Christie, mais souriante, lumineuse même.
Ah bonjour. Je vous attendais. Je suis Adèle. Enchantée. Merci de passer me voir. Entrez, je vous en prie.
Et elle s'installe dans le salon. La déco est vieillotte, mais d'emblée, Patricia s'y sent bien.
Votre maison est charmante, Adèle. Oh, merci, merci. Ça fait plus de 60 ans que je vis ici. Cette maison appartient à la famille de mon défunt mari. Elle a été transmise de génération en génération depuis sa construction en 1852. Je serais incapable de la quitter.
Et vous vivez seule ici?
Ah oui, oui. Depuis la mort de mon mari, d'ailleurs... C'est à partir de là que tout a commencé.
Et là, Adèle se met à raconter une histoire qui commence il y a 20 ans, 6 mois après le décès de son mari.
«
Un soir, elle est dans le salon, en train de regarder la télé. Elle entend des bruits de pas dans le couloir. Au début, elle pense que c'est sa femme de ménage qui est revenue, comme elle a les clés.
Madame Robin ? Madame Robin, c'est vous ?
Pas de réponse. Alors elle se lève, elle va voir. Rien. Les bruits de pas ont cessé, il n'y a personne. Mais un quart d'heure plus tard, voilà qu'ils reprennent à l'étage.
Je vous jure, hein, quelqu'un marchait dans la chambre du premier étage. Je peux vous dire que ça m'a fichu une de ces frousses, mais vous savez quoi ? Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté à l'étage pour voir, pour me défendre. J'ai avec ma canne.
Elle raconte qu'elle arrive à l'étage et que tout doucement, elle baisse la poignée de la porte, elle l'ouvre sans faire de bruit. Rien. Rien, personne. En revanche, quelques jours plus tard.
J'étais en train de lire dans le salon. Et là, j'ai vu passer une silhouette dans le couloir. Une petite personne vêtue de bleu. Alors je me suis précipité dans sa direction, mais là encore personne. Mais j'étais pas folle, j'avais vraiment vu quelqu'un passer.
Adèle raconte que dans les jours qui suivent, elle est témoin de choses bizarres. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Des bruits de pas.
Je me disais que j'étais devenue folle. Mais plusieurs fois, la femme de ménage a été témoin de tout ça. Et je peux vous dire qu'après, elle est venue travailler avec la peur au ventre. Ah oui.
Ces phénomènes ont duré comme ça pendant un an. Et un an après, en pleine nuit, Adèle a été réveillée par un froid glacial.
On était en plein mois de février. Alors je me suis demandé si c'était pas la chaudière qui avait rendu l'âme. Je me suis redressé sur mon lit, et là, au bout de mon lit, hein, j'ai vu, comme je vous vois, une femme. Une femme dans une robe bleue. Elle avait un visage fin, gracieux, un beau chignon, bien fait, et elle me regardait. Et je voyais son visage dans la pénombre, sa peau diaphane, ses grands yeux.
Ce que pense Patricia à ce moment-là du récit ? Pour être honnête, elle a un doute. Un doute sur la santé mentale de la vieille dame qui est assise en face d'elle. Elle donne trop de détails. Sa description du fantôme est trop précise. Dans son livre, elle écrit « J'écoutais sceptique, car la somme de détails qu'Adèle se plaisait à me décrire me faisait penser aux imaginaires des petites filles qui vous dépeignent avec mille fioritures les faits des histoires qu'elles inventent. Nombreux sont ceux qui imaginent des fantômes pour donner un sens à leur existence. » Mais elle laisse Adèle poursuivre son histoire. Cette femme avec sa robe bleue revient plusieurs fois dans sa chambre.
Une fois, elle portait même un collier en or, avec des pierres bleues.
Encore ce luxe de détail, ce côté too much. La vieille Adèle a l'air de brinque-baller du ciboulot.
Mais il faut que je vous raconte ce qui s'est passé quelques années plus tard. Un jour, j'étais dans la cuisine, je faisais l'argenterie. J'ai eu comme un étourdissement, mais... pas vraiment un malaise, l'impression d'être traversé par une force. Alors, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil. Et à ce moment-là, mon bras s'est mis à se raidir. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il fallait que j'écrive à tout prix. J'étais comme guidé par une force invisible.
Et donc, elle raconte qu'elle s'est mise à écrire. Au début, des formes anarchiques, du gribouillage d'un enfant de 2 ans. Et puis, à un moment, une suite de lettres. Un I, un S, un M, un E, un R, un I et un E à nouveau. Isméri.
Isméri, c'est un vieux prénom qui ne se porte plus guère. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce jour-là, je me suis mis à communiquer régulièrement avec cette femme. Vous me croyez, Patricia ? Dites-moi, Adèle, vous savez pourquoi cette femme est apparue juste après la mort de votre mari ? Oui, vous allez comprendre. Parce que cette Isméri a réellement existé. C'était la sœur du grand-père de mon beau-père. La famille de mon mari, donc. D'après ce que je sais, elle souffrait d'anorexie mentale. Elle ne mangeait pas. Elle était très maigre et elle a fini par mourir très jeune, à l'âge de 22 ans, en 1858. Vous savez, ses parents n'assumaient pas du tout sa maladie. Ils avaient honte. Et puis, ils n'avaient pas pu la marier à un bon parti. Alors, ils l'ont cachée. Ils l'ont cachée tout ce temps. Elle est restée enfermée ici jusqu'à sa mort.
Et vous voulez savoir la cause de son trouble psychique? Eh bien, moi, je le sais. C'est l'inceste, Patricia. Son propre père l'a violée. C'est lui qui l'a rendue folle. Alors, vous me demandez pourquoi elle aurait attendu la mort de mon mari pour réapparaître? Elle détestait les hommes. Elle a tout simplement attendu qu'il n'y ait plus d'hommes dans cette maison pour se montrer à nouveau.
Adèle a raconté son histoire avec beaucoup de décontraction, sans donner l'impression d'être plus perturbée que ça. Et du coup, notre amie Patricia, qui pourtant croit dur comme fer à l'existence des fantômes, est toujours un peu sceptique. Est-ce que cette vieille folle n'invente pas tout ça? Mais elle prend le parti de la croire.
Adèle, c'est Ismery qui est l'ancêtre de votre mari. Il faut l'aider à partir. Il faut l'aider à rejoindre l'au-delà. Il faut l'aider à trouver la paix.
Ah, mais moi, je ne sais pas faire tout ça.
Moi, si.
Et Patricia promet qu'elle reviendra dans 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, la voilà donc de retour au manoir. Elle s'installe dans la chambre d'Adèle. Une chambre de vieille dame avec des fleurs partout, sur les murs, sur les draps. Une pièce joyeuse, en vérité. Pas du tout le genre d'endroit où on imagine croiser des fantômes. Et elle s'endort, et la première nuit passe. Et le lendemain, au petit déjeuner, Adèle lui demande.
« Vous n'avez rien senti ?»«
Ah non, rien. »«
Vous doutez de moi, n'est-ce pas ?»«
Ah non, non, je vous respecte. Je ne doute pas de vous, Adèle. C'est juste que cette histoire est incroyable. J'aimerais juste ressentir, moi aussi, la présence d'Ismery. Je voudrais qu'elle me fasse un signe. »
La deuxième nuit, vers 1h30 du matin, Patricia se réveille avec une sensation étrange, l'impression de ne pas être seule. Elle lève la tête, et là, au pied du lit, pendant une seconde, hein, pas plus, elle voit une silhouette féminine, une robe, qui disparaît tout de suite, mais elle l'a vue. Et voilà ce qu'elle croit comprendre à ce moment-là. Elle se dit qu'au fil des années, Adèle et Ismery, Adèle et le fantôme, sont devenus comme fusionnels. Elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. C'est devenu malsain. Adèle s'est repliée, s'est enfermée dans sa relation avec cet ancêtre fantomatique.
Dites-moi, Adèle. Dites-moi la vérité. Depuis combien de temps vous n'avez pas mis le nez dehors? Depuis que tout a commencé, vous sortez de moins en moins. Hein, c'est ça. Vous voyez plus personne.
Ben oui. Mais c'est normal. Je suis âgé, j'ai du mal à me déplacer.
Adèle, je comprends qu'au début, la présence d'Ismery était comment? Réconfortante pour vous. Elle vous tenait compagnie, alors vous avez commencé à vous faire plus discrète dans le village, à un peu moins inviter vos amis. Ismery est devenue votre seule force de survie.
Vous pensez? Hein? C'est possible.
Elle doit partir, Adèle. Elle doit partir pour que vous retrouviez la sérénité.
Adèle fait oui de la tête. Elle accepte de se libérer d'Ismery. Mais ça ne va pas être facile, hein. Ça va faire un vide dans sa vie.
Mais pourquoi cette jeune femme n'a-t-elle pas rejoint l'au-delà à sa mort? Pourquoi est-ce qu'elle a continué à hanter ces lieux, Patricia?
Ismery était attendue, comme tous ceux qui franchissent ce cap qu'est la mort. Seulement, elle n'était pas prête à partir, elle était trop enfermée dans sa douleur psychique. Dans cette société de convenance de l'époque, on l'a cachée, et donc à sa mort, elle est restée cachée.
Dans son livre, Patricia écrit « Je restais auprès d'elle toute la journée, la réconfortant à ses multiples demandes. Elle allait libérer Ismery de plus de 100 ans de souffrance. » Patricia donna à Adèle une recette. Une solution.
Alors Adèle, vous allez prier. Vous allez prier tous les jours et demander dans vos prières à Ismery de suivre la lumière. D'accord?
Et elle la laisse seule avec son fantôme. Et les jours passent. Et les mois. Et un jour, Patricia reçoit une lettre d'Adèle. « Cher ami, je veux vous raconter la dernière visite d'Ismery. Je l'ai vue le soir où vous êtes parti. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Elle était là, assise au bord de mon lit, dans sa robe bleue. Elle me regardait et pour la première fois, je l'ai vue sourire. Je me suis senti si bien, si légère. J'ai compris qu'elle me remerciait. Alors, je veux vous remercier à mon tour. Voilà donc pour ces deux histoires tirées du livre de Patricia Daré qui est là en face de moi. Le livre s'appelle « Il y a quelqu'un dans la maison ». Il est paru chez Michel Lafon, il a rencontré un énorme succès dès sa parution. Moi j'aime beaucoup Patricia, cette deuxième histoire pour plein de raisons. La première, c'est que vous-même, vous doutez. Parce qu'Adèle est âgée, c'est ça?
Je doute toujours lorsqu'on m'appelle. Ma première réaction, c'est de douter. Parce que je me dis, il faut vraiment voir et constater toutes les possibilités existantes et voir si elles sont valables ou pas, pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose de paranormal. Il y a tellement de choses normales qui peuvent causer justement ces troubles, ces désirs, ces volontés de voir quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une extrême solitude, elle est âgée, elle est seule.
Oui, donc et ça c'est vie, un signal d'alerte.
Oui, parce que sa vie est vide, elle attend la mort et se créer une compagnie, c'est quelque chose qui est fabuleux. Quand on a l'âge d'Adèle.
Alors vous écrivez d'ailleurs, ça me fait penser aux imaginaires des petites filles qui vous dépeignent avec mille fioritures des faits, des histoires qu'elles inventent. Nombreux sont ceux qui imaginent des fantômes pour donner un sens à leur existence. Il y a donc des gens qui inventent des fantômes qui n'existent pas.
Il y a des gens qui inventent des fantômes parce que ça donne un sens, ça leur permet d'être intéressants ou d'être énigmatiques. Et puis aussi, ça leur permet d'appeler des gens pour venir constater. Et ces gens, le temps qu'ils passent avec eux, ben, ils ne sont plus seuls. Ça crée des liens. Et il y a des gens chez qui je suis allée, par exemple, à qui j'ai dit, bah, écoutez, il n'y a plus personne. Je ne ressens plus rien ou il n'y a plus personne. Mais ils vous rappellent en disant, c'est revenu. Parce que d'un seul coup, la solitude revient. Ou carrément, ils me disent, c'est embêtant parce que j'étais bien quand même. Voilà, j'étais pas tout seul. C'est ce que disait Adèle, en fait. Cette solitude, c'est l'ennemi aussi du bon sens et de la raison, parfois.
Et il vous arrive souvent de tomber sur des illuminés qui ont inventé des fantômes pour se tenir compagnie. Et au fond, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous voir pour vous dire « Mais il y a un fantôme là-bas, mais eux-mêmes, à la limite, ils vivraient bien avec ce fantôme qu'à la fin de leur jour. »
Il y a des gens qui protègent leurs fantômes. C'est-à-dire que ce sont des fantômes qui n'existent pas forcément, mais qui sont protégés parce que c'est une raison de vivre. C'est une compagnie. On en fait ce qu'on en veut d'un fantôme inventé. Il fait ce que vous voulez. Il vous écrit des choses merveilleuses. Il vous aime. Et en fait, ils ont la sensation d'être aimés. Chez les vrais fantômes, il n'y a pas cette sensation-là. Les vrais fantômes sont beaucoup plus agressifs.
Alors c'est intéressant parce que je vous l'ai dit, je ne crois pas à votre qualité de médium, mais en revanche je veux bien croire que vous soyez très psychologue et au fond ces gens, avant toute chose, ont besoin qu'on les écoute et ont besoin de parler. Et comme par ailleurs vous êtes animatrice à la radio locale de Radio France, France Bleu Berry, que votre voix est connue dans toute cette région-là, ils ont l'habitude de vous entendre, ils vous font confiance. Vous avez une fonction, si on va au-delà du paranormal, et qui est une fonction d'écoute presque d'assistante sociale du Berry.
Il y a un peu de ça. Certaines fois, c'est un peu ça. C'est-à-dire le besoin d'être écouté, le besoin de communiquer, de se confier, et de vider un peu. Je suis un déversoir des angoisses, un déversoir de la solitude, des angoisses et des vies maudites parfois.
Alors, on va marquer une première pause dans ce débrief de ces deux histoires de fantômes. On va revenir sur cette histoire d'Ismery qui m'intéresse presque plus que la première. Parce que vous allez appliquer à cette histoire une forme d'analyse psychologique qui fait de vous une psychologue assez fine. J'ai une lecture qui n'est pas une lecture fantomatique, qui est une lecture psychanalytique. Cette histoire, au fond, nous renvoie à ce que les psychanalystes appellent les secrets de famille, ces secrets qui se transmettent de génération en génération et qui viennent perturber les générations les unes après les autres. Est-ce que cette lecture vous va aussi? Ça n'est peut-être pas un fantôme, mais c'est un secret, une douleur, une blessure familiale qu'Adèle traîne probablement après sa mère, après son grand-père et ainsi de suite.
Alors, C'est tout à fait juste l'analyse que vous faites sur le secret de famille qui devient un fantôme qui peut hanter des maisons et des familles pendant des générations et empoisonner la vie de tout le monde.
Le fantôme, c'est un surgissement de l'inconscient, en l'occurrence.
Alors là, je pense qu'Adèle voyait quelque chose parce qu'elle le décrivait. Bon, selon moi, elle le décrivait trop précisément. Ça peut être effectivement l'incarnation, ou disons la matérialisation d'une douleur. Ça peut être aussi un vrai fantôme qu'elle voyait, ne connaissant pas la douleur que cette femme avait vécue, ne connaissant pas cette histoire. Elle voyait vraiment le surgissement de la douleur. Mais c'est vrai que c'était une douleur. Et ce qui m'inquiétait beaucoup chez Adèle, c'est qu'elle avait vraiment copiné. Elle l'avait protégée, elle ne voulait pas qu'elle s'en aille. Elle voulait garder une douleur à la maison. Une douleur, l'incarnation, la matérialisation de quelque chose de douloureux, de prisonnier, de routinier, de quotidien, qui faisait qu'elle devenait aussi, elle, prisonnière de cette douleur, sans s'en rendre compte. Elle ne sortait plus, elle ne voyait plus personne. Elle était devenue, elle et son fantôme, n'était devenue qu'un, en fin de compte. Et ce qui me... J'ai senti que c'était dangereux. C'est pour ça que je l'ai incité à se débarrasser de ce fantôme. Elle ne voulait pas, hein. On s'est heurté, elle ne voulait pas. Ça lui allait très bien qu'il y ait cette jeune fille qui passe de temps en temps avec sa robe bleue, avec son joli bandeau sur la tête.
Ça n'est pas elle qui veut que vous veniez, c'est votre copine Annie qui veut que vous alliez là-bas.
Absolument.
C'est pas la même chose.
C'est pas la
que
même
quelqu'un
chose
qui fait appel à vous, comme dans la première histoire dont on va parler tout à l'heure.
Absolument. Adèle n'a pas envie que je vienne mettre mon nez dans ses affaires. Bon, elle me dit, bon, elle était intéressée parce que elle savait que j'avais cette capacité de voir les fantômes. Elle était intéressée pour me montrer son fantôme, comme on montre un meuble, une statuette, un beau tableau. Mais elle ne voulait pas que je le touche. C'était ça, en fait.
Et surtout pas que vous le fassiez partir.
Et que je fasse partir, mais comment, quoi? C'était pas possible. Et ça m'a alertée. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, cette histoire-là.
Cette histoire d'Ismery, anorexique, violée par son père, et donc anorexique à cause de ce traumatisme du viol de l'enfance, elle la connaissait entièrement. Vous avez l'impression qu'elle l'avait déjà racontée ou elle vous l'a dit pour la première fois?
Elle la verbalise pour la première fois. Parce qu'elle ne l'avait pas racontée à mon amie Annie. Et elle la verbalise, elle raconte cette histoire qu'elle avait apprise, je ne sais pas par quel biais elle l'avait su, je ne me souviens plus.
Mais
comment.
Les psychanalystes disent que ça se transmet dans l'inconscient de génération en génération.
Elle a retrouvé quelque chose, ou par écriture automatique, puisqu'elle dit qu'elle communiquait avec ce fantôme qui lui aurait dit effectivement cette chose-là. Alors peut-être qu'elle a aussi verbalisé cette histoire, mais elle l'a verbalisé pour la première fois, et je ne sais pas, et je vais encore plus loin, et j'espère qu'Adèle, si elle nous écoute, elle me pardonnera. Mais je ne sais pas si cette histoire-là n'a pas été vécue par elle-même étant enfant. C'est quelque chose qui était tellement protégé, oui, peut-être.
Oui, c'est une piste.
Parce qu'elle la protégeait tellement que j'ai l'impression qu'il y avait une telle résonance que, généralement, quand on sent une souffrance, on a envie de la calmer, d'y remédier. Elle n'avait pas envie. C'est comme si c'était un écho, un bel écho de ce qu'elle avait vécu. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je n'ai pas osé l'exprimer. Mais peut-être que c'était cela. Et on est, effectivement, et c'est pour rappeler que le paranormal flirte avec la psychanalyse. Et c'est avant tout de la matière psychique, c'est le psychisme qui entre en ligne de compte. C'est pour ça que, quand je suis appelée, je fais d'abord le tour de la question pour savoir la quantité de psychose, de névrose, de problèmes de schizophrénie ou autre, avant d'établir un diagnostic paranormal. C'est assez rare.
Il vous arrive de tomber sur des malades mentaux.
Oui.
Atteints, par exemple, de schizophrénie.
Schizophrénie, bien sûr, qui viennent me voir en disant « j'entends des voix ». Et la grande différence, c'est que les voix, lorsqu'on est malade, les voix sont incohérentes. Ce sont des délires, il n'y a pas de cohérence. Un médium, théoriquement, je dis bien, doit avoir un discours cohérent et confirmable à la suite par des preuves.
Mais quelle différence est-ce que vous faites, en fait, entre ce que j'appelle, moi, le secret de famille et ce que vous appelez, vous, un fantôme? Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme?
Un fantôme, oui, c'est vrai. Il y a un voisinage très, très proche entre le fantôme et le secret de famille. C'est vrai ce que vous dites. En fait, c'est quelque chose qui nous ramène et qui nous rappelle un passé douloureux. C'est une douleur qui vient s'exprimer. Même si on ne connaît pas l'histoire, on est porteur de l'histoire. Je pense qu'on est porteur de nos fantômes.
Mais le fantôme, vous lui voyez un visage, vous lui voyez une forme,
oui.
Vous le voyez soulever un canapé.
Oui.
Vous croyez que ce fantôme peut soulever ce canapé. C'est là que je ne vous suis plus.
Eh bien parce que il y a le fantôme qui est la douleur. C'est pour ça que la base du fantôme, je dis, on a nos fantômes qui sont des faits avérés. Il y a aussi des vrais fantômes pour moi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas partis, des âmes qui errent. Voilà, c'est ce qui m'éloigne un peu de vous. C'est-à-dire qu'il y a des vrais fantômes qui sont restés sur notre dimension, sur notre plan, pour continuer à dire ce qu'ils ont à dire, à être entendus ou à témoigner de leur peur, de leur angoisse.
Mais vous croyez à leur capacité à soulever un canapé ?
Oui, bien sûr, la matière psychique. Et il y a des forces qui sont incontrôlables. Alors ça peut être le fantôme allié aux personnes à qui ça arrive. Parce que j'ai aussi vu des poltergeists, comme on dit, notamment dans une HLM, alors c'est très très curieux, c'est pas dans une maison victorienne, à Bourges, encore à Bourges, des objets qui se déplacent dans une pièce, des armoires, etc. Tout est provoqué par une jeune fille qui est assise en face de moi, qui est bien vivante, et qui a souffert, elle aussi, d'un grave problème dans son enfance. Donc je pense que nous sommes capables, les fantômes sont capables, et nous sommes également capables. Et le fantôme, la force qu'il déploie, souvent, est liée à notre propre force. Il vient la chercher en nous, cette force, souvent.
Alors intéressant, la recette que vous proposez à Adèle pour rompre avec ce fantôme, vous lui proposez de dire des prières chrétiennes. Oui. Et là, alors là, il y a une percussion qui m'a paru intéressante. Oui. Les catholiques ne seraient peut-être pas très contents de se retrouver, de voir leurs prières utilisées pour faire partir des fantômes dans l'au-delà. Je ne savais pas non plus que vous étiez bigote.
Je ne suis pas bigote, je ne suis pas croyante.
Ah, vous n'êtes pas croyante.
Je suis même pas croyante.
Mais vous préconisez des prières chrétiennes.
Chez les chrétiens, je préconise la prière parce que c'est comme une clé qui rentre dans une serrure. La prière, c'est un code. Chez les musulmans qui viennent me voir, je préconise évidemment des sourates du Coran, bien sûr. Et puis, chez les juifs, bien des extraits du Talmud parce que ce sont des codes de l'inconscient. Chacun a sa religion. Chacun réagit suivant des codes. Donc, pour moi, la prière, en l'occurrence, chez le prêtre, évidemment, qui vivait dedans, chez Adèle, qui était croyante, c'était une vraie manière de se sentir puissante, puisqu'elle elle utilisait ses armes.
Et pour les athées, vous faites quoi? Des poèmes de Victor Hugo?
Je leur dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je leur dis de penser, tout simplement, et d'émettre des pensées.
Alors la première histoire, l'histoire de ce prêtre enfermé dans son tabernacle après avoir été tué par des révolutionnaires après la Révolution française de 1789. Alors là ce qui vous trouble, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est que vous débarquez dans cette maison, a priori tous les signaux sont au vert, il y a un fantôme, mais vous ne le percevez pas, il ne se manifeste pas. Est-ce que ça vous arrive souvent ?
Non, c'est assez rare. Le fantôme qui se cache, qui se manifeste, puis qui est violent quand même. Hein. Il se manifeste violemment, mais il se cache en même temps. Il ne veut pas être trouvé. C'est rare. Parce que les fantômes, généralement, n'ont pas cette conscience. Ils sont discrets ou ils errent, mais ils se manifestent dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui peut les entendre. Et là, effectivement, je suis troublée parce que il m'échappe. Je ne sais pas ce que c'est. Et je dis, je ne sais pas du tout ce qu'est cette force. Je n'arrive pas à lui donner un nom. Je ne sais pas si elle était mise dans l'esprit des gens qui sont dans la maison, parce que c'est la première chose à laquelle je pense, qui émet cette force. Et puis, je vais comprendre très vite que c'est quelque chose qui leur échappe complètement. En plus, ils n'ont pas le profil de gens qui croient aux fantômes non plus.
Oui. Mais donc, ils sont des gens rationnels.
Ah, ben, complètement. D'ailleurs, les gens que je vais voir sont s'ils m'appellent, c'est que vraiment, je suis la dernière possibilité. On le fait un peu clandestinement et un peu gêné parfois.
Alors, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, je suis chineur. Moi aussi, je fais les brocantes. Et je peux vous dire que si un jour j'ai l'occasion d'acheter un tabernacle du XVIIIe siècle, je le ferai. Et j'ai deux ou trois objets religieux chez moi. Vous dites dans votre bouquin que la place d'un tabernacle n'est pas dans une maison, qu'il est dans une église.
Oui, alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout ce qui concerne le culte, les églises, les objets religieux, les objets qui ont été créés pour être dans les églises lieux de culte, objets de culte, ont été conçus d'une manière énergétique différente des autres objets. C'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être dans un endroit où l'on va se recueillir et prier, pas dans un endroit de vie. Et il s'avère que souvent, des objets religieux qui sont mis dans des contextes peu appropriés vont émettre une espèce de force qui est contraire. Alors on dit, dans mon langage de sorcière du Berry, on dit « ils tournent à l'envers ». Ça veut dire que d'un seul coup, ils vont irradier quelque chose de négatif. Et c'est souvent, j'ai souvent remarqué, et j'ai souvent également des témoignages de gens qui ont dû retirer des objets religieux de chez eux parce qu'ils tombaient malades, parce qu'ils ne se sentaient pas bien, parce qu'ils ne trouvaient plus de sommeil. Et il s'avère que les gens qui créaient ces objets les ont créés, au siècle précédent bien sûr, aujourd'hui c'est un peu différent, avec des intentions. Et l'intention, il semblerait, comme le secret de famille...
Elle est dans le bois.
Voilà. L'intention est dans la matière. Mmh. Et elle va conduire la matière.
Mais vous le ramenez chez vous. Et vous êtes donc très imprudente.
Dans le jardin, parce que je ne veux pas être... Je ne veux pas le côtoyer pendant la nuit, je ne veux pas dormir à côté de cet
objet. Donc c'est intentionnellement qu'il n'est pas dans votre maison,
oui,
que vous le mettez dans la cabane du jardin.
Oui, dans le jardin, parce que je ne veux pas qu'il irradie dans ma chambre, dans ma maison, je ne veux pas qu'il remplisse ma maison d'énergie que je ne connais pas, qui sont certainement négatives.
Qu'est-ce que il est devenu ce tabernacle? Parce que ce n'est pas raconté ça.
Alors je crois que...
Vous le leur avez rendu
redonné. Oui, je crois qu'ils l'ont donné à un prêtre, à une paroisse. Et c'est généralement le retour des objets religieux quand ils posent problème. Ils reviennent dans des paroisses. Il y a aussi des cas avec des icônes chez des gens qui ont acheté des icônes russes, volées souvent dans les églises orthodoxes. Ils reviennent dans les églises. Et à un moment, il y a un retour
c'est
à la
source.
C'est
vous qui le leur conseillez?
Oui, je leur dis, en disant, mais qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit le revendre? Non. Remettez-le, donnez-le à un prêtre, donnez-le à une paroisse. En plus, c'était un bel objet. Et il va retrouver une église.
Vous leur avez livré votre explication à ces gens dont vous dites qu'ils étaient rationnels.
Oui.
Ils l'ont accepté?
Oui, ils l'acceptent. Ils l'acceptent, oui, parce que, bon, moi, ce qui est intéressant, c'est, pour moi, c'est de voir les soucis disparaître.
C'est-à-dire que les gamins sont plus griffés, il n'y a plus personne qui reçoit de baffes, les canapés ne se soulèvent pas.
Exactement, et il y a une belle harmonie dans la maison. Mmh. Dès qu'il me dit ça y est, tout va bien, on vit bien, il n'y a plus de manifestations, c'est bon. Donc c'était bien ça, où il s'est passé quelque chose qui a fait que les choses rentrent dans l'ordre. Après, mon explication, la femme l'a totalement, et souvent les femmes l'acceptent beaucoup plus, les hommes... Il y a toujours cette rationalité.
Les hommes sont plus rationnels que les femmes, beaucoup plus,
c'est difficile. Donc je me souviens qu'il m'a dit, ah ben alors si vous le dites, si vous le dites, mais lui était tranquille et était soulagé surtout de ne plus avoir ces manifestations. Après, de penser ou d'imaginer qu'il a pu croire à tout cela, je ne sais pas.
À la fin de tout ça, il vous donne un petit billet?
Non, jamais.
C'est une chose que je refuse.
Oui, souvent on me dit combien je vous dois, comme si on pouvait mettre de l'argent sur ces choses qui sont tellement... Je me suis dit, c'est de l'ineffable. On ne peut pas taxer l'ineffable. Non, bien sûr que non, je ne prends rien. Et je m'en voudrais de prendre quelque chose. Après, ça me regarde. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que moi, je ne peux pas le faire. Et que je le fais volontiers. Et j'ai l'impression, je vais vous dire une chose qui est étrange, j'ai l'impression d'être payée au centuple. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai fait des choses comme ça, que je rentre chez moi, et que les jours qui vont suivre, je vais être bien. Très bien dans ma tête, très bien dans ma peau, il va m'arriver des bonnes choses. Alors, comme je suis un peu superstitieuse, certainement, je dis, c'est à cause de ça. J'ai fait du bien, donc le bien m'est rendu. Mais jamais n'est question d'un centime, évidemment non.
Mais vous passez vos week-ends à dormir dans la chambre d'Adèle, qui est la chambre d'une vieille dame, dont on nous dit que la tapisserie et le dessus de lit sont à fleurs. On imagine que tout ça n'est pas frais, que la literie n'est pas de l'avant-veille, que tout ça sent un peu la vieille dame. Vous dormez dans son lit, gratuitement.
Bah bien sûr. Et elle est très gentille, elle m'offre son lit et elle me prépare un dîner. Je trouve ça gentil. Non, mais vous savez, je dors aussi dans des ruines de châteaux, je dors dans des choses, vous savez, des endroits les plus improbables. Hein. Et j'aime faire ça.
Mais comme vous ne vous faites pas payer, du coup, ça ne peut pas être votre activité principale.
Bien sûr que non, je travaille. Donc
vous êtes animatrice à la radio.
Toujours, bien sûr.
Et donc, vous passez sans doute à côté de milliers d'histoires, puisque vous ne disposez pas du temps... Puisque vous n'acceptez pas l'argent.
Je pense que si j'acceptais l'argent et que j'en faisais mon métier, je ne vivrais pas toutes les merveilles que je vis. Ça deviendrait un métier. Mmh. C'est-à-dire avec des obligations de rendement, de résultats, des clients. Je ne pourrais pas le supporter. Là, on est encore dans le merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a de l'inconditionnel, des gens que je rencontre, que je reverrai ou peut-être pas, des instants merveilleux où il n'y a rien qui se passe, personne ne doit rien à personne. Je trouve ça extraordinaire.
Je vous connais depuis plus de 30 ans, Patricia. Mmh. Vous êtes ce qu'on appelle une très belle femme. Vous pourriez passer tous vos week-ends à faire la bamboula dans des boîtes de nuit. Vous les passez chez des vieilles dames à dormir dans des lits qui grincent.
Ou dans des chèvreries en campagne, chèvreries hantées. Mais oui, parce que je suis comme ça, j'aime faire ces choses-là, j'aime comprendre. D'abord, je suis une solitaire. Donc déjà, je suis une solitaire. Ces endroits un peu énigmatiques où il y a des choses incomprises, des énigmes à résoudre, un peu de solitude la nuit, un peu de peur, un peu d'adrénaline, des chouettes qui ululent, j'adore.
Rendre service, être aimé par les gens.
Pas forcément aimé, parce que vous savez, les gens, une fois qu'ils ont le résultat, c'est pas pour ça qu'ils vous aiment plus, mais j'ai rendu service et je me suis mise en accord avec moi-même. J'ai fait ce que je devais faire. Après, les gens m'aiment, m'aiment pas. C'est pas important.
Dans votre métier, dans cette radio où vous travaillez depuis 1986, c'est-à-dire très exactement 32 années, on vous prend un peu pour une dingo ou pas ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est ça, parce qu'on n'en parle jamais. Je ne parle jamais de cela avec mes collègues. Jamais personne. Ou alors on me dit, tiens, il y a un truc pour toi. Alors on me montre un château hanté. Mais on me le dit. Ou alors on me dit, tiens, voilà, parce que je reboote un peu, je fais des choses. Oh tiens, j'ai mal au dos. Mais je suis rentrée dans les mœurs. Donc on ne me regarde plus. Vous savez, c'est à force de me voir, on ne me voit pas. On ne sait même plus ce que je fais. On n'en parle jamais. C'est devenu totalement naturel.
Et dans vos émissions de radio, vous en parlez ?
Jamais.
Non plus ?
Non plus.
Il y a deux vies.
Il y a deux vies et il y a une chose qui me sauve, c'est que je suis quand même très rationnelle. Je suis très rationnelle, c'est-à-dire qu'avant de croire, il faut que j'ai fait le tour de la question et quand on me dit « venez, j'ai un fantôme chez moi », je n'y crois pas d'emblée. Je veux voir.
Merci Patricia Darré.
Merci Christophe.
De nous avoir fait confiance une fois de plus.
Merci à vous.
On attend votre prochain livre parce que là c'est on a essoré le premier, enfin celui-là, et on ne pourra pas raconter d'autres histoires tant que vous n'écrirez pas un
Merci,
livre supplémentaire.
C'est très gentil.
Mais j'espère que vous reviendrez à cette occasion.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.